chronique de Canal Académie.
On retrouve Jacques-Louis Binet, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Père et série, c'est sous ce titre que Cécile Debray décline magnifiquement au Centre Georges Pompidou la notion de dualité, de père, de doublon, que Pierre Schneider avait découvert dès 1986 et vous pouvez analyser au Centre Georges Pompidou plus de 90 toiles, toujours deux par deux. Autant de doubles, autant de petites séries, et vous pourrez ainsi suivre un perpétuel va-et-vient, un aller-retour, un perpétuel remake entre les différentes versions. Et pour ne pas se perdre dans la totalité des chefs-d'œuvre qui vous sont montrés, je vais me résumer simplement à 4 ou 5 doublons. Premier thème, le Quai Saint-Michel. Matisse s'y installe en 1895 dans une mansarde, ensuite dans un appartement au 5e étage où il habite et travaille, appartement modeste, et il y restera de 1995 à 1907. Avec une double vue, à gauche, vers l'ouest, le pont Saint-Michel, le pont Neuf, l'île de la Cité, le palais de justice, et dans le fond, la cour carrée du Louvre. À droite, vers l'est, la façade de Notre-Dame. Alors, nous allons d'abord étudier cette première série de tableaux avec 5 tableaux. Le premier date de 1898. Les Stein l'avaient acheté et il portait le titre « Pont Saint-Michel à Paris, effet de neige ». C'est un tableau d'une manière impressionniste qui joue sur le blanc de la neige qu'on trouve sur les quais, qu'on trouve sur les péniches, la couleur de la Seine qui est d'un côté plus blanche et de l'autre côté brune, et puis quelques taches rouges, et puis le ciel. Donc un accord de gris, tout à fait dans le style impressionniste, avec déjà, à gauche, une vision assez sèche de la paroi de la maison, d'où le tableau est pris. Ensuite, 3 autres tableaux de la même période. Cette fois-ci, alors, ils ont tous en commun, très bien montré, très fort, une sorte de ligne de plomb, qui est la barre de la fenêtre et qui sort de vertical, de bord vertical qu'on voit très durement. Et ces 3 tableaux sont très divers. L'un est pratiquement cézannien, avec des couleurs multiples, avec un fond assez foncé, et puis un ciel qui est bleu, mais avec beaucoup de blanc, et le bâtiment d'en face est à peine évoqué. Et il faut se méfier chez Matisse des blancs, parce qu'il imagine à propos de ces blancs et des tableaux soi-disant non terminés, beaucoup de choses. Deuxième toile, tout à fait différente, avec cette fois-ci plus personne, pas de population, rien ne bouge, et un enduit assez particulier, vert, qui assure la continuité entre le Quai Saint-Michel, le Quai des Grands Augustins et le Pont Saint-Michel. Donc une grande plaque verte autour de laquelle la Seine est bleu-blanche d'un côté et bleu de l'autre côté, et à droite, au contraire, un effet de rouge. Ensuite, 2 autres toiles, ou alors il se laisse aller. L'un, il se laisse aller totalement au plaisir de la couleur, et la dernière est tout à fait dans le style de Marquet, car en effet, il va quitter l'atelier du Quai Saint-Michel en 1907, et il le donne à Marquet. Il revient en 1914, et Marquet lui signale que l'atelier d'au-dessous est libre, et il y retourne. Donc, dans cette deuxième partie, là encore des chefs-d'œuvre, avec une vue totalement opposée qui est celle de Notre-Dame, et puis surtout 2 intérieurs de l'atelier. Alors, les 2 vues de Notre-Dame se retrouvent, s'enchevêtent, se tissent l'une à l'autre. Elles datent du printemps 1914, une période encore heureuse, il n'y a pas encore de guerre, et un tableau printanier, un tableau gai où tout bouge. Tout est très réaliste, finalement, avec une touche très fine qui vous montre les passants, qui vous montre une voiture à cheval, qui vous montre les nuages du ciel, pas de péniche, mais une eau dont le reflet est différent selon l'endroit où elle est peinte. Devant Notre-Dame, un plan très très brun. Notre-Dame est brune mais plus claire, et là encore, des blancs. Donc un tableau extraordinairement gai, réaliste. Et puis, l'opposé, le doublon de la même période, intitulé « Vue de Notre-Dame », qui est un véritable chef-d'œuvre. Là, tout a changé. Tout est bleu. tout est mangé, si je peux dire, incorporé dans le bleu, avec au-dessus du bleu quelques traits. D'une part, Notre-Dame elle-même, eh bien, il y a un effet de couleur qui fait qu'on a l'impression que Notre-Dame monte, qu'elle est aspirée par le bleu du ciel. Et on voit finalement trois toits de Notre-Dame, trois niveaux se superposant avec une Notre-Dame qui est pratiquement transparente. Elle est bordée d'un noir, une tache verte pour représenter un arbre à côté, et puis, à côté, des traits noirs. Des traits noirs géométrie, une géométrie d'ailleurs assez singulière, qui très rapidement schématise le pont, très rapidement aussi montre le quai, et puis le bordure de la fenêtre, et à droite du bordure de la fenêtre, vers le bord droit, une transparence où on voit apparaître de nouveau le pont et les arcades du pont. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette ascension de Notre-Dame, dans cette transparence du bleu, le bleu est très travaillé. Le bleu est presque écorché. Le bleu est mal fichu, si je peux dire, pour montrer qu'il est repris, qu'il est refait, qu'il le peint et le repeint. Autrement dit, plus de réalisme, une toile totalement conceptuelle, pratiquement une idée, un projet, mais pas du tout une réalité. Et on a beaucoup raccroché cette toile à la période cubiste. C'est un peu faux. C'est un peu faux parce que si le matin, vous passez dans cet endroit et que vous voyez à contre-jour Notre-Dame avec cette façade, vous avez ces effets de lumière. Comme seule la façade est éclairée, elle semble monter et s'opposer au parvis. Il y a un double jeu. Donc, un grand aboutissement à propos du bleu qui est à la fois la Seine et le ciel, un grand travail sur ce sujet et en même temps, un travail totalement conceptuel, mais qui correspond à une réalité physique, et vous pouvez la retrouver si le matin, à contre-jour, par un temps aussi beau qu'aujourd'hui, tôt le matin, vous voyez Notre-Dame à contre-jour éclairée par le ciel. Donc, ce bleu, eh bien, ce bleu, Matisse ne l'oubliera pas. Et il va le reprendre beaucoup plus tard, quand il va aller en avion. Il fait un voyage à Londres qui le frappe beaucoup, et il est frappé par ce qu'on voit du ciel. C'est le même bleu. C'est le même bleu et vous savez qu'à partir de ce bleu, il va attaquer bientôt les papiers découpés. Donc, il peindra des thèmes comme la chute d'Icare. Donc, ce bleu qui date de 1914, Matisse ne l'oublie pas et il le reprendra 40 ans plus tard pour des thèmes tout à fait différents. Ensuite, rentrons dans l'atelier avec quatre tableaux, donc deux séries. L'un s'intitule Intérieur bocal de poisson rouge, c'est l'atelier avec tout est tranquille. D'une part, l'atelier est très foncé, presque noir, mais il communique totalement avec la vue. La vue, c'est le pont Saint-Michel, c'est en face, je crois que c'est la police ou le palais de justice, je ne sais pas, mais qui est éclairé parce que c'est un tableau qui est sûrement fait le soir et qui est éclairé par le soleil de l'ouest. Et puis, il y a en permanence un accord entre le bleu de l'eau qui entoure les poissons et le bleu de la Seine. Il y a un accord avec les taches rouges des poissons et la bordure du balcon et d'autre part la bordure de l'oreiller. Il y a un même vert sur une tablette à l'intérieur de l'atelier et qui vient colorer la route qui va vers les boulevards et qui est perpendiculaire à la Seine. Donc un accord total, paisible, dans cette première version. Et deuxième version, cette première version est faite à un moment heureux, 1914, le printemps avant la guerre. La deuxième version n'a aucun rapport. La deuxième version est dure. Elle est presque géométrique. Beaucoup, et elle est intitulée Poisson rouge et palette. Et beaucoup ont voulu y voir le rôle du cubisme. Comme vous le savez, Matisse était au courant de tout. Il n'était pas cubiste, mais il a été intéressé par le problème des plans. Et cette toile retrouve un peu, eh bien, les dernières, la fin des tableaux de Braque, de Picasso et de ses suiveurs. Donc des plans, un énorme plan noir au milieu du tableau, qui est à la fois la fenêtre et en même temps l'intérieur. Latéralement, deux taches blanches qui représentent le sol. Et en haut, latéralement, le même bleu que tout à l'heure pour le ciel. Tout ça dans une géométrie compliquée. On fait semblant d'apercevoir le peintre, courbé un petit peu à droite. On fait semblant d'apercevoir sa palette, mais on voit surtout les fers du balcon et on voit surtout l'agitation des poissons. Donc c'est le contraire de la toile de tout à l'heure, dans un nouveau langage, un tableau anxieux, agité. Dernier tableau de cette série du Saint-Michel, qui est peut-être le plus important sur le plan psychologique pour Matisse, parce qu'il définit le rapport du peintre et du modèle. Le modèle s'appelle Lorette, et il y a deux tableaux, Lorette sur fond noir, Quai Saint-Michel 1916, et un autre tableau qui s'appelle Le peintre dans son atelier, avec toujours Lorette, fin 1916, début 1917. Eh bien, le premier tableau est ambigu, car dans ce premier tableau, il y a deux interprétations. Soit un tableau très sensuel, c'est une idole, mais il y a des babouches, une gandoura, un accord de rose et vert, des cheveux dénoués, des cheveux noirs, bref, une sorte d'attraction sexuelle qui ne manque pas d'évoquer, d'autant qu'elle est assise, confortablement assise, sur un fauteuil rose. Et cet accord du vert et du rose a quelque chose, il faut bien le dire, de très sensuel. Autre interprétation, c'est au contraire une image d'une idole. Lointaine, elle a les yeux fermés et elle représente plus du tout le désir, elle présente l'inaccessible. Elle est une sorte de déesse. Alors, vous interprétez comme vous voulez. Matisse n'a pas donné la clé, il ne donne jamais ses clés, les clés à vous de les trouver, mais ce tableau a une double signification. Et on retrouve la même Lorette dans le dernier tableau sur le Quai Saint-Michel, le peintre dans son atelier, qui est un tableau très étonnant parce que c'est le peintre et son modèle, donc à la fois le modèle Lorette et à la fois l'autoportrait. Tableau très singulier qui est pratiquement coupé en deux par un noir qui fait le coin de l'atelier et qui va jusqu'à la bordure de la fenêtre. Et ce noir sépare l'atelier de l'extérieur. Cette fois-ci, tout est séparé, complètement séparé. Elle, le modèle, est représenté deux fois, d'une part en réalité au fond, mais d'une manière beaucoup plus schématique que tout à l'heure, d'autre part sur la toile, et alors qu'elle est dans le fauteuil sur un fond rose, elle apparaît sur le fond noir, qui est cette bordure très lourde de l'atelier. Et dans la même bordure noire, le peintre. Attitude très singulière, il est assis, il a à sa gauche une palette, mais on ne voit rien à droite, comme s'il était manchot. Donc il ne peint pas. Et là encore, double interprétation, est-ce qu'il n'est plus capable de peindre devant la beauté de cette femme? Ou au contraire, est-ce qu'il cherche à peindre un moment de communication? Car manifestement, entre le peintre, le modèle et la toile, il y a une osmose. Alors, est-elle sensuelle? Est-elle intellectuelle? Va-t-elle aboutir à un autre tableau? Je ne sais pas. Et puis, comme toujours, Quai Saint-Michel, cette grande bordure de fenêtre, cette espèce de fil de plomb qui vient séparer cet intérieur totalement isolé de l'extérieur. Voilà des chefs-d'œuvre. Alors, en réalité, comme vous le voyez, tous ces chefs-d'œuvre sont fondés sur une idée, c'est-à-dire la dualité. Il peint une chose et l'autre, deux et deux font un, toujours deux choses en même temps. Alors ça, c'est la grande inspiration de Matisse et c'est ce qu'a trouvé Pierre Schneider il y a déjà très longtemps dans son livre de 1896, « Deux et deux font un » et Matisse dit « Je suis toujours obligé de faire deux choses en même temps ». Alors il y a d'abord la bataille du midi, c'est-à-dire de la couleur contre le dessin. Eh bien là, on a des images très lourdes, très fortes de la couleur, avec un tableau dont on a déjà parlé ici à propos de Cross, qui est Luxe, Calme et Volupté, et qui a été précédé, c'est un tableau qu'il a fait à Saint-Tropez, qui a été précédé du même tableau sans personnage qu'il avait intitulé Le Goûter, avec un arbre sur lequel on a beaucoup parlé, et c'est Cross qui lui montre comment on fait du pointillisme. C'est donc dans la couleur, un essai quand même de ligne, qui n'est pas une ligne, qui est une suite de points, que très rapidement, Matisse va abandonner et il ne sera jamais un vrai peintre pointilliste. Et puis, il y a l'opposé. L'opposé sera la joie de vivre, qui est le tableau qui est fait l'année suivante, c'est-à-dire 1906, où il n'est plus à Saint-Tropez, où il est à Collioure. Et là, toujours dans un thème très sensuel, eh bien, toujours avec beaucoup, beaucoup de couleurs, il commence à redessiner. Et en particulier, il redessine les corps des femmes. Voilà donc cette double interprétation de la couleur et du dessin. Et vous savez qu'il a eu peur du fauvisme, qu'il a voulu dessiner, redessiner, redessiner, et qu'il va reprendre ce travail pendant très longtemps. Autre dualité, peinture-sculpture. En 1907, il casse le moule d'un nu couché. Il reprend le même thème en peinture, nu bleu, souvenir de Biskra, pour transférer cette espèce de sorte de charge lumineuse de la claise sur la toile. Et puis, autre dualité, les portraits. Et là, je vous montre deux portraits qui figurent dans le catalogue, mais qui ne figurent pas dans l'exposition, qui est celui d'un marchand qui s'appelait Georges Besson. Je crois que c'était un critique d'art, mais je crois que c'est un marchand. Avec une histoire, Georges Besson lui achète un tableau, lui demande un portrait, et il fait un portrait assez conventionnel, très beau, avec une face droite qui ne ressemble pas à la face gauche, avec un fond droit qui ne ressemble pas au fond gauche, mais un tableau qui reste extraordinairement classique. Besson n'est pas content. Il lui paie son tableau, Matisse accepte le paiement, mais lui dit « j'en refais un autre ». Et il fait un tableau tout à fait différent, où cette fois-ci c'est le même visage, le même ovale, mais uniquement d'une façon beaucoup plus abstraite, beaucoup plus concrète, beaucoup plus et en même temps physique, car on voit les grands coups de pinceau qui dessinent le visage. Alors, j'avais encore beaucoup de choses à dire, en particulier à propos des nus, car dans les nus, il y a toute une série avec un nu qui va mettre plusieurs semaines à faire, et pendant ce temps-là, il complète les autres. Mais comme il nous reste peu de temps, je voudrais insister sur plusieurs choses. Premièrement, l'importance de Schneider, dont l'idée a animé l'exposition. Et puis, ce jeu de navette de l'un à l'autre, à quoi conduit-il? Eh bien, il conduit à l'œuvre ultime. Et là, il y a des phrases de Matisse qu'on ne peut pas oublier. Tout art digne de ce nom est sacré, le vide illumination de l'espace. Et Matisse, à la fin de sa vie, réinvente un autre vide. Quant à lui, s'avançant seul sur ce nouvel espace, eh bien, il ne faut pas oublier que depuis 1945, il a le ventre ouvert, il est mutilé. Et il écrit « Quant à moi, la santé n'a pas été brillante, avec des hauts et des bas, tourmenté par des spasmes nerveux variés, je n'ai pas été heureux. » Et ce peintre du bonheur ne traduit plus le bonheur. Il ne cherche plus et il conclut, et Pierre Schneider reprend ses conclusions, « L'œuvre est réussie lorsqu'elle guérit, lorsqu'elle allège, lorsqu'elle agit sur la vie. » Vous comprenez bien que moi, médecin, je ne peux pas ne pas terminer sur cette phrase admirable.